France Musique. Musicopolis. Décembre 1709, Venise. En ces temps géopolitiques troublés, de guerres de succession d'Espagne, de rivalités entre France, Angleterre, États pontificaux, Empire, Espagne et j'en passe, Venise est devenue une sorte de capitale des plaisirs pour le tourisme aristocratique européen. Et le carnaval est le meilleur moment pour toutes ces fêtes, ces bals, ces soupers et ces opéras. Il peut arriver qu'il y ait jusqu'à 7 opéras dans une seule soirée à Venise en cette période de carnaval. Et les théâtres rivalisent les uns avec les autres à qui présentera les plus grands chanteurs, les plus beaux décors et, s'ils en trouvent, les meilleurs compositeurs. Le théâtre San Giovanni Crisostomo est, selon le Mercure Galant, le plus grand, le plus beau et le plus riche de Venise, avec 5 étages de 31 loges chacun, ornés de décors sculptés. Il est la propriété de la famille Grimani, une vieille famille vénitienne qui a procuré à la ville doges, procurateurs et cardinaux. Le théâtre a été inauguré il y a une trentaine d'années et il est renommé pour ses productions somptueuses et extravagantes. C'est probablement le cardinal Vincenzo Grimani, fondateur avec son frère du théâtre San Giovanni Crisostomo, qui a écrit le livret de l'opéra qu'on représente en ce 26 décembre 1709, Agrippina. Grimani s'est inspiré de l'histoire romaine et de quelques-uns de ses personnages les plus sombres pour en faire un ouvrage dans le style vénitien qui mêle la comédie et la tragédie, le mensonge, la trahison, la recherche du pouvoir, l'érotisme et l'amour, dans une intrigue pleine de rebondissements et de coups de théâtre. Le cardinal a confié la musique à un jeune compositeur allemand qui fait fureur dans la péninsule depuis qu'il est arrivé, voici près de 3 ans, Georg Friedrich Händel. Le jeune Händel s'est attiré le succès partout où il est passé. Il maîtrise tous les styles, allemand, français, italien. Comme tout opéra italien du début du XVIIIe siècle, Agrippina se présente comme une alternance de récitatifs et d'airs. L'action se raconte durant les récitatifs, accompagnée seulement par le clavecin et la basse. La psychologie ou l'état d'âme des personnages s'exprime dans les arias. Cet ouvrage détient une sorte de record du nombre d'arias avec un total de 37. Et c'est sans compter encore deux ariettes, deux arioso, deux ensembles et deux chœurs. Le premier personnage qui a droit à son air est Néron, le fils d'Agrippine. Sa mère vient de lui annoncer que l'empereur Claude, son mari, s'est noyé dans une tempête et que c'est lui, Néron, qu'elle veut faire couronner à présent. « Grâce à tes conseils avisés, lui répond-il, je monterai sur le trône. » Néron chante le verbe « ascendero »,« je monterai » sur une gamme descendante. Curieux, non ? Ah, quand même, il a fini par remonter sur Ascendero. Mais on dirait bien qu'il n'est pas très sûr de lui. Ou alors qu'il est bien obéissant et plutôt soumis à sa maman Agrippine. Évidemment, lorsque la dite maman va avoir son premier air, on ne pourra qu'être sensible à la différence de personnalité. Mon âme, à travers les tempêtes, espère retrouver son port d'attache. On a évidemment affaire ici à une femme de caractère. Et oui, si l'opéra s'appelle Agrippine, ça n'est pas pour rien. Elle est la tête d'affiche, c'est elle qui va tirer tous les fils de l'intrigue. Retour au début, da capo, mais à présent avec une ligne ornée. Le 26 décembre 1709, lorsque Agrippina de Händel est créée à Venise, le rôle-titre est tenu par la soprano Margherita Durastanti. Si l'on en juge par la musique que le compositeur écrit pour elle, on comprend qu'elle doit avoir des moyens tout à fait impressionnants, aussi bien sur le plan vocal que comme actrice. Händel la connaît bien, puisqu'il a travaillé avec elle à Rome, chez le marquis Ruspoli. Il a composé pour elle plusieurs cantates et aussi le rôle de Marie-Madeleine dans son oratorio La Resurrezione. Poursuivons un peu notre découverte des personnages principaux. Poppée, est la jeune première séduisante vers qui se portent les regards des jeunes hommes, Néron et Ottone, et même du moins jeune Claude, l'empereur. Nous faisons la connaissance de Poppée alors qu'elle est seule devant son miroir. « Perle précieuse, fleur rare, ornez mon front, ajoutez du charme à ma beauté, car j'ai en moi l'envie d'éveiller l'amour dans les cœurs. » Parmi les prétendants de Poppée, Néron et Ottone ont des voix aiguës, tandis que l'empereur a une voix de basse, dans la typologie vocale plutôt une voix de père que d'amant. Il a beau être marié avec Agrippine, il cherche à obtenir les faveurs de Poppée. Parmi les personnages dont je ne vous ai pas encore parlé, deux sont amoureux d'Agrippine, Pallante et Narciso. En leur promettant à chacun que leur espoir n'est pas vain, elle les manipule pour qu'ils l'aident à faire monter son fils Néron sur le trône. Ils sont dans un premier temps tous les deux prêts à trahir l'empereur pour elle. Puis, comprenant qu'elle s'est jouée d'eux, ils virent de bord pour la trahir à leur tour. Mais il reste un personnage qui, lui, est d'une inaltérable fidélité à lui-même et aux autres, c'est Ottone. Il a sauvé l'empereur Claude de la noyade. En retour, Claude lui a promis de lui transmettre son trône. Ce qui n'intéresse pas du tout Ottone, il n'a cure du pouvoir. Ce qu'il veut, c'est pouvoir épouser Poppée, qu'il aime. Mais Agrippine a fait croire à tous les autres personnages qu'Ottone était un traître à sa parole. Il est rejeté par tout le monde, il n'y comprend plus rien.
Fedeltà, il cielo, hai fatto rio.
Nous sommes ici au centre de l'acte 2 d'Agrippina de Händel, au sommet d'intensité dramatique. Ottone souffre profondément, rejeté par Poppée, par ses amis, par Claude à qui il a sauvé la vie. Quelle injustice ! Après ce récitatif, accompagné par l'orchestre, fait très rare et donc remarquable, il s'adresse au public. « Vous qui entendez ma plainte, compatissez à ma douleur. » Agrippina est le sixième ouvrage dramatique de Händel, qui a alors 24 ans. Quatre ont été composés pour Hambourg et un pour Florence. Comme on l'entend ici, il a déjà toute la maîtrise que l'on peut attendre d'un compositeur d'opéra. Et il maîtrise parfaitement la prosodie de l'italien, qui n'est pourtant pas sa langue maternelle. C'est que depuis près de 3 ans qu'il arpente la péninsule, du nord au sud et retour, il a mis en musique énormément de textes. On connaît ses 2 oratorios, Il trionfo del tempo e del disinganno et La resurrezione, mais surtout, il a écrit 100 cantates, à voix seule ou à 2 voix, avec instrument ou seulement une basse continue. Ces cantates, généralement composées de quelques airs mêlés de récitatifs, sont un peu comme des opéras miniatures. Elles traitent d'amour et de tous les sentiments que peuvent éprouver les cœurs amoureux. De quoi entraîner un jeune compositeur à toutes les subtilités de l'expression musicale. Agrippina, qui ourdit des plans diaboliques depuis le début de l'opéra, est en train de douter. Pensez, vous me tourmentez. Händel nous permet par sa musique de connaître le fond de cette âme perturbée. Et pourtant, ce n'est pas un air original pour cet opéra. C'est le recyclage d'éléments déjà utilisés précédemment dans 2 cantates différentes. Recyclage qui est la règle dans Agrippina, puisque seulement 5 des quelques 40 numéros sont des nouveautés. Bien sûr, les éléments recyclés sont vraiment adaptés, reconditionnés, pourrait-on dire, pour leur nouvel écrin. C'est ainsi que l'un des airs les plus émouvants de la partition, chanté par Ottone au 3e acte, vient d'un motet latin. « De certitude ni sur l'auteur du livret d'Agrippina, ni sur le moment auquel Handel l'a composé. Mainwaring, son premier biographe, écrit qu'à Venise, Handel fut franchement poussé à composer un opéra. Mais la perspective était si faible de retirer honneur ou avantage d'une telle entreprise qu'il se montra fort réticent à s'y engager. À la fin, cependant, il y consentit. Et en 3 semaines, il acheva Agrippina, qui fut représentée 27 soirées consécutives. Certains musicologues d'aujourd'hui avancent l'hypothèse que peut-être le cardinal Grimani avait donné son livret au compositeur en 1707, dès son arrivée à Rome. Grimani, à présent vice-roi de Naples, ne pouvant se déplacer à Venise pour les représentations de 1709, un autre librettiste aurait aidé Handel à arranger le texte pour qu'il puisse s'adapter aux airs recyclés. Le biographe de Handel affirme que le public était à tel point sous le charme de cette production qu'un étranger qui eût été témoin de la manière dont il s'en trouvait affecté en serait venu à la conclusion qu'ils étaient tous dérangés. Le théâtre, presque à chaque pause, retentissait de cris et d'acclamations de « Viva il caro sassone !»« Vive le cher Saxon !» Ils étaient abasourdis par la grandeur et le sublime de son style. Car jamais il n'avait jusqu'alors connu tous les pouvoirs de l'harmonie et de la modulation si habilement détaillés et si puissamment combinés. Le chœur Lieto il Tebro, extrait du 3e acte d'Agrippine de Handel, Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emelianichev. Et nous avons entendu aussi des extraits de la version de l'Académie für Alte Musik Berlin, dirigée par René Jacobs. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Guillaume Ledu pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolme pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.